C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est l'une des régions les plus isolées et les plus inhospitalières de la planète. La nuit est tombée il y a un mois et demi sur l'Antarctique où le soleil ne refera son apparition que dans un mois et demi. Et oui, trois mois sans soleil. Aujourd'hui, nous sommes donc au milieu de l'hiver dans cette région du monde. C'est le Midwinter Day, un jour de bascule très attendu par les scientifiques et les équipes techniques qui, au nom de la science, acceptent de vivre plusieurs mois dans des conditions extrêmes. Les températures peuvent atteindre jusqu'à moins 93 degrés. C'est rare, mais ça arrive, c'est un record. Mais je vous laisse imaginer les températures le reste de l'année. Alors, qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes à aller s'isoler dans la nuit australe? Quelles sont leurs conditions de vie et quel type d'appétit s'aiguisent actuellement autour de cette zone géostratégique? Nous en parlons avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jérôme Chaplaz.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de géosciences de l'environnement au sein du laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement de Grenoble. Et vous êtes le directeur de l'Institut polaire Paul-Émile Victor, que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
L'Institut polaire français Paul-Émile Victor, c'est l'agence de moyens et de compétences de notre nation pour conduire de la recherche dans les milieux polaires. On met en place les infrastructures, la logistique nécessaire pour que des chercheurs, tous domaines confondus, puissent exercer leur activité dans ces milieux extrêmement reculés, difficiles d'accès.
Voilà, et on va voir que la France a plusieurs stations dans la zone. En duplex avec nous depuis Quimper, dans l'ouest de la France, grâce aux équipes techniques de France Bleu, Claire Le Calvez, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous avez participé au premier hivernage à la base Concordia en 2005. Depuis, vous vous êtes rendu à de très nombreuses reprises sur place puisque vous coordonnez les infrastructures et la logistique de la base Concordia, ce qui n'est pas une mince affaire. Nous allons en parler. Alors j'aurais aimé que nous commencions par une conversation en direct de Concordia, justement, la base française en Antarctique. Mais il y a une coupure d'Internet actuellement. Donc nous essaierons d'appeler Julien Moyet, qui est glaciologue et qui vit dans cette base depuis le mois de novembre, dans une trentaine de minutes. Il faut s'adapter aux conditions extrêmes. Claire Le Calvez, des scientifiques français accompagnés d'une équipe technique, acceptent donc au nom de la science de vivre dans la nuit australe pendant six mois. C'est long quand même, hein, de mars à septembre, même s'il ne fait pas nuit tout le temps. Concordia, c'est à 3200 mètres d'altitude. Ce sont des conditions extrêmes. C'est une vraie épreuve physique et psychologique.
Oui, tout à fait. L'épreuve physique est sûrement pendant la période d'été australe, puisque c'est à ce moment-là que les gens s'adaptent à l'altitude. Et ensuite, c'est une épreuve psychologique pendant la durée de l'hivernage qui dure 9 mois. Donc là, c'est la vie en communauté avec dans une équipe franco-italienne à 13. En ce moment, ils sont 13. Donc c'est une épreuve psychologique un petit peu au quotidien. Mais ils sont tous volontaires pour aller là-bas.
Oui, heureusement, ils ne sont pas punis. Hein. Alors, vous l'avez vécu, vous aussi, dans des conditions encore plus particulières, puisque la première fois, c'était en 2005, et la station n'était même pas terminée. Ça devait être particulier, quand même.
Oui, en effet, c'était particulier. On était dans une sorte de challenge.
S'amuse.
Puisque l'objectif de l'hivernage était de finir les installations à l'intérieur de la station et puis aussi de montrer que cette station était viable et qu'elle pouvait tenir tout un hiver, puisque des choix technologiques avaient été faits. On ne savait pas, en fait, si ça allait marcher tout au long de l'hiver.
Et alors, puisque mais vous nous parlez aujourd'hui, on en conclut que ça a marché.
Et ouais, on en conclut que ça a marché plutôt bien et on espère que ça va marcher encore longtemps.
Oui, alors il y a une quarantaine de stations scientifiques en Antarctique, Jérôme Chaplaz, aujourd'hui. C'est la plus isolée, Concordia.
On peut considérer que c'est la plus isolée avec sa plus proche voisine située à 600 km de là, qui est la base russe Vostok. Ensuite, il y a la base Pôle Sud, située au Pôle Sud géographique, qui est une base américaine. Elle s'appelle en fait Amundsen Scott, du nom des explorateurs qui ont été les premiers à fouler la neige du Pôle Sud. Et ce sont en fait les trois seules stations de recherche au cœur du continent antarctique. Quand on dit au cœur, Concordia est située à 1100 km des côtes. Pour s'y rendre, si on s'y rend en tracteur, c'est 10 jours de roulage en tracteur. Si on s'y rend en avion, évidemment, ça va beaucoup plus vite, mais c'est quand même pratiquement, en fonction de l'avion, 3 à 5 heures de vol supplémentaire depuis la côte. On est vraiment au milieu de nulle part. Comme j'ai l'habitude de dire, ces stations, c'est un peu comme la station spatiale internationale posée sur Terre. Elles sont très, très isolées.
Alors Claire Le Calvez, vous coordonnez aujourd'hui la logistique dans cette station Concordia. Quelles sont les principales difficultés ?
Au cœur de l'hiver, la principale difficulté, ça va être d'avoir un œil sur toutes les installations au quotidien, parce que le moindre petit incident peut faire dérailler la machine. Ensuite, si ça commence à aller de travers, tout peut aller très vite, surtout avec des températures très très basses, comme il se fait en ce moment. En ce moment, il fait dans les moins 70, moins 75 sur place. Donc, il faut être vigilant au quotidien.
Enfin, j'imagine qu'il y a pas mal de sécurité. Si le groupe électrogène tombe en panne, il y en a un deuxième, non ?
Bah oui, alors on a plusieurs groupes électrogènes, il y a des alarmes un peu partout, mais tout n'est pas couvert et des dérives peuvent vite arriver. Par exemple, la semaine dernière, on a eu les échangeurs de chaleur qui sont sur la ventilation de la station qui ont gelé, tout simplement. Donc en fait, le système de ventilation marchait toujours, mais l'air n'était plus ni réchauffé ni refroidi. Donc ça peut très vite dégénérer en une accumulation de, par exemple, d'humidité à l'intérieur de la station, avec du coup des points de condensation sur la structure, du gel à l'intérieur de la station. Donc il faut être toujours vigilant sur à peu près tout.
Est-ce que vous avez déjà eu des frayeurs ?
Des grosses frayeurs, oui, il y en a. Je pense que chaque hivernage en a. Chaque black, donc un black, c'est quand un groupe électrogène se coupe. Chaque black est une frayeur parce que ça veut dire que pendant quelques instants, quelques minutes, ça peut aller de 2 minutes jusqu'à 10 minutes, une demi-heure, la station est dans le noir total sans plus aucune énergie. Donc quand on a des frayeurs, ça dure toujours plus longtemps que la réalité. Et donc ça, c'est le genre de frayeur qui se passe tous les ans. On essaye d'en avoir le moins possible, mais ça arrive tous les ans.
Là, il faut un sacré mental. Jérôme Chaplace, vous aussi, vous avez eu votre première fois dans cette zone.
J'ai eu ma première fois, mais je ne fais pas partie des privilégiés qui ont connu un hivernage, effectivement, isolé comme ça au cœur du continent antarctique. Je ne m'y suis rendu qu'en conditions d'été. Alors ça a également son lot de stress et de conditions difficiles. J'ai eu notamment le privilège d'être sur des conditions un petit peu de camp reculé, hein, au milieu des montagnes transantarctiques, où pareil, un tout petit groupe électrogène pour faire tourner le camp. Et puis on en a un de court. Le premier tombe en panne, le deuxième démarre et puis il s'arrête et on n'arrive pas à le faire redémarrer. Et là, on est en situation, qu'est-ce qu'on fait ?
Et là,
notre chance, c'est qu'on était à 300 km d'hélicoptère de la station principale. Il y a eu une petite fenêtre météo et la station principale a pu nous envoyer un hélicoptère pour récupérer tout le monde. Heureusement
qu'il y
avait...
Sinon,
on se serait mis en mode, on va dire, survie, c'est-à-dire on prend de la neige qu'on met au fond du sac de couchage pour avoir un petit peu d'eau douce, la neige qui fond au contact du corps, et puis on attend qu'il y ait une fenêtre météo et qu'on vienne nous chercher.
Parce qu'à moins 70 degrés...
Alors, il faisait pas moins 70, ouais. Là, on était à des conditions à moins 35, moins 40 degrés. Nettement plus confortable. Ça fait une grosse différence. Non, là, ce qu'il faut bien insister dans le cas de Concordia, c'est que s'il leur arrive un problème, ils n'ont qu'eux-mêmes pour se débrouiller. On ne peut pas envoyer d'avion, on ne peut envoyer aucune équipe pour les aider. Ils sont laissés à eux-mêmes.
Et pourquoi ?
Tout simplement parce qu'on est loin de tout, qu'on ne peut plus envoyer d'avion, il y fait trop froid, c'est l'obscurité totale. Et donc le dernier avion qui a quitté Concordia, c'était cette année le 12 février, si mes souvenirs sont bons. Le premier avion qui va se poser sera probablement celui du 7 novembre ou 8 novembre. Entre, il n'y a pas de vol, donc il n'y a rien. Ils se débrouillent.
Alors il n'y a pas que Concordia, là on parle de Concordia parce que c'est vrai que c'est un peu fascinant quand même, cet isolement total. Mais l'Institut Polaire Français déploie des personnels dans d'autres stations scientifiques comme Dupont-d'Urville sur la côte antarctique ou bien sur les îles et archipels au sud de l'océan Indien comme Crozet, Kerguelen. Ce sont des expériences de vie très différentes, dans des conditions difficiles aussi.
Oui, je pense que ces différents districts ont en point commun le fait d'être isolés, d'être vraiment une communauté coupée du reste du monde. Alors pour des durées différentes, le cas de Concordia est extrême puisqu'effectivement les gens qui hivernent ne voient personne d'autre pendant environ 7 mois. Ceux qui sont sur les îles australes, ces îles sont ravitaillées par un navire qui appartient aux Terres australes et Antarctiques françaises, qui part de la Réunion et qui va ravitailler ces stations des Terres australes, on va dire tous les 2 à 3 mois. Et donc, ils voient à nouveau un équipage tous les 2 à 3 mois, mais ils sont sur site, eux, pour 12-13 mois.
Et quels sont leurs travaux ?
Alors les travaux sont, alors il y a les personnes qui sont là pour l'intendance, c'est-à-dire maintenir les infrastructures. Donc on a, c'est le rôle de l'IPEV pour les bases comme Dumont-Durville et Concordia, et c'est le travail de Claire notamment, c'est de piloter tout ce qui est corps de métier permettant d'entretenir les infrastructures. Donc c'est de la plomberie, ce sont des mécaniciens, ce sont des plombiers, etc. Donc les corps de métier, on va dire de l'artisanat pour maintenir une infrastructure. Et le reste du personnel, ce sont les scientifiques. Parce qu'on y est là-bas pour conduire de la science. S'ajoutent dans les îles australes les aspects de surveillance de ce qu'on appelle une réserve naturelle. Les îles australes sont la plus grande réserve naturelle de France. Peu de gens le savent, mais c'est un territoire absolument gigantesque, avec des espèces spécifiques, des espèces endémiques, comme on dit. Et il s'agit de surveiller leur évolution pour les quelque part les protéger.
Donc il y a également des personnels. Des espèces fascinantes, d'ailleurs.
Ah oui, tout à fait. Et donc des personnels surveillent en fait cet environnement unique avec les manchots royaux, avec les albatros, etc.
Claire Le Calvez, Jérôme Chaplaz l'évoquait, il y a en effet beaucoup de personnel technique, il y a aussi des personnels de santé, parce qu'à partir du moment où on est en autonomie, faut pouvoir se soigner en cas de besoin.
Oui, tout à fait. Donc à Concordia, en période d'hiver, il y a un médecin, en été aussi d'ailleurs, il y a un médecin, charge à lui de former une équipe médicale parmi les hivernants, pour pouvoir intervenir en cas de gros soucis. Alors quand je dis un médecin, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un médecin praticien et ensuite il y a un médecin chercheur qui travaille pour des programmes de biomédecine sur les hommes. Et ce médecin chercheur peut aussi intervenir en cas de problème. Donc ensuite les autres personnels de la station sont mobilisés et formés au cours de l'hivernage là pour intervenir. Donc moi par exemple j'étais anesthésiste. Il y a deux infirmiers qui sont formés, des anesthésistes et aides-chirurgiens.
Enfin, anesthésiste, c'est plusieurs années d'études de médecine en France. Donc là, on est formé en quelques semaines.
Avec
quoi.
Un marteau.
Ouais, on est formé avec
un marteau derrière
semaines.
La nuque et hop.
Et en fait, non. Le médecin nous apprend à surveiller les instruments qui vont en anesthésie, qui vont surveiller le patient. Et puis, on apprend les règles minimales d'hygiène pour la salle d'opération, etc. Donc, on porte juste assistance au médecin. On n'est pas là, c'est pas nous qui allons anesthésier le patient, on est là en surveillance.
Et comment vous recrutez ce personnel? Parce que c'est quand même très particulier de s'engager comme ça pour plusieurs mois dans ces conditions.
Alors, le personnel est d'abord recruté sur ses compétences techniques ou scientifiques, pour les scientifiques. Et ensuite, on fait passer, le personnel qui est sélectionné, entre guillemets, passe des tests psychologiques et médicaux pour vérifier que leur état, leur santé, ils sont en parfaite santé, en fait, quand ils partent. Hein. Aucun souci de ce côté-là. Et puis, la psychologie porte surtout sur est-ce qu'ils ont la capacité à se protéger eux-mêmes du stress de l'hivernage pendant cette durée d'hivernage. C'est-à-dire, est-ce que pendant l'hivernage, ils ne vont pas mettre leur propre vie en danger, par exemple? Et puis, bien sûr, au niveau de leur sociabilité, vivre en collectivité au sein d'un groupe restreint.
Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des dérapages? Est-ce que ça se raconte à la radio?
Ouais, il y a des dérapages, j'ai envie de dire, pas tous les ans, mais quasi tous les ans, des petits ou des grands dérapages. Un petit dérapage, c'est juste quelqu'un qui peut faire une dépression pendant 2-3 jours ou qui ne veut voir personne. Ça, je pense que ça arrive à peu près à chaque membre d'hivernage. C'est comme vous, en métropole, vous ne pouvez pas être d'humeur constante pendant toute une année. Il y a des jours, ça va moins bien, des jours, ça va bien. En plus, cette humeur est influencée par les nouvelles qu'on peut apprendre de l'extérieur, notamment des nouvelles de la famille. Si on apprend un décès, que quelqu'un est malade, ça porte tout de suite notre morale au plus bas. Sachant qu'à Concordia, on ne peut rien faire. On est passif, en fait, de ces informations-là. Et puis, ça peut aller à des événements un peu plus graves. Quelqu'un qui peut vraiment... avoir envie de partir de la station, ça on a eu une fois, donc la personne compliqué. Prend son anorak, met sa combinaison polaire et dit maintenant je m'en vais, et donc elle s'en va marcher vers la Pampa, donc au loin de la station. Donc l'enjeu est de le rattraper, de le raisonner, de le faire reprendre son calme au sein de la station, et puis de faire en sorte qu'il poursuive son hivernage jusqu'au premier avion sans encombre.
Et on a eu le cas l'hiver dernier, en fait, dans une base russe, d'un hivernant qui a poignardé un de ses collègues. Heureusement, ça n'a pas été fatal, mais il a fallu mettre la personne isolée aux arrêts. C'est incroyable, il n'y a pas de prison hein, dans une station, mais il a fallu isoler la personne en question, ensuite le faire conduire par les Chiliens, le livrer aux autorités chiliennes, et puis ensuite livrer aux autorités russes. Mais voilà, ça a été un cas absolument extrême, je pense assez unique, j'espère que ça ne se reproduira pas.
Eh bien, dites donc, c'est compliqué quand même hein, de faire de la science dans des zones extrêmes comme ça, où il fait moins 70 degrés et nuit. Pendant 3 mois, nous sommes donc solidaires aujourd'hui des scientifiques, des techniciens et de tous ceux qui, pour faire avancer la connaissance de notre environnement, acceptent de passer des mois dans des bases reculées au pôle sud ou en Antarctique. Aujourd'hui, pour eux, c'est la fête, c'est la moitié de l'hiver, le Midwinter Day. Voilà pourquoi nous leur donnons la parole.
Now Antarctica. It was always t-shirt weather around you, hot wind blowing through your hair. It was always top-down weather with you, sub-Saharan somehow. And now Antarctica, Antarctica. I can sense the coldest shoulder in the world. Where's the thermostat that controls your soul? No amount of insulation will protect me. I'm the frostbite from my head to my soles. I sense that you were made here. Antarctica. It was always Acapulco around you, temps could rise up somehow. It was always hectic weather, sun like glaring somehow. And now Antarctica. It was always Acapulco around you, temps could rise up somehow. It was always hectic weather.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'Antarctique car aujourd'hui c'est le Midwinter Day, le jour du milieu de l'hiver. Ça ne vous dit rien, mais en Antarctique, là-bas au bout du monde, où les températures peuvent atteindre jusqu'à moins 70 degrés, c'est un jour de fête pour tous ceux qui vivent dans les bases scientifiques, dans des conditions extrêmes. Ils sont plongés dans la nuit australe depuis un mois et demi et le soleil devrait revenir dans un mois et demi. C'est donc un jour de basculement. Nous sommes avec Jérôme Chaplaz, le directeur de l'Institut polaire Paul-Émile Victor et membre de la délégation française à la réunion annuelle du traité de l'Antarctique qui aura lieu bientôt, je crois, c'est à Prague en juillet.
Oui, en juillet, tout
voilà.
À fait.
Donc on va en parler. Claire Le Calvez est en duplex de Quimper avec nous dans l'ouest de la France. Elle coordonne les infrastructures et la logistique de la base Concordia. Et comme les défis techniques ne nous font pas peur, nous saluons l'arrivée dans l'émission de Mika Meren, qui est en ligne avec nous depuis Pékin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant en géopolitique et relations internationales, spécialiste des zones arctiques et antarctiques. Alors, on ne l'a pas dit encore, mais l'Antarctique, c'est une étendue de 12,5 millions de kilomètres carrés. C'est le dernier continent à avoir été découvert. Et contrairement à l'Arctique, qui héberge de nombreuses populations indigènes, il n'était pas habité et il a un statut particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce statut ?
Oui, le statut de l'Antarctique, il est en effet très particulier, puisque vous avez au départ, c'est-à-dire avant 1959, 7 pays qui ont émis une revendication territoriale sur certaines parties de l'Antarctique. Alors sur ces 7 pays, il y en a 5 qui se reconnaissent mutuellement, et puis il y en a 2 autres, l'Argentine et le Chili, qui sont un petit peu à côté, qui ne sont reconnus par personne. Les 5 qui se reconnaissent entre eux, c'est la France, la Norvège, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Donc vous avez ces 7 pays-là. Et puis en 1959, je vous passe les détails sur comment c'est arrivé, mais on a un traité de l'Antarctique qui est donc signé avec 12 nations. Et parmi ces nations, vous retrouvez notamment les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Et ce traité de l'Antarctique, à son article 4, ce qu'il dit très simplement, c'est qu'il crée un statu quo sur le continent antarctique, c'est-à-dire que les pays qui avaient émis des revendications territoriales, eh bien, ces revendications territoriales, elles ne s'annulent pas, mais elles ne sont pas non plus reconnues. Et de l'autre côté, les pays qui n'avaient pas émis de revendications territoriales, eh bien, eux, tout simplement, ils n'ont pas le droit d'en émettre de nouvelles. Mais pour autant, la Russie, à l'époque l'Union soviétique, et les États-Unis se sont même réservés le droit d'en émettre peut-être un jour. Donc le statut de l'Antarctique est très particulier. On peut dire qu'il n'appartient à personne, mais en réalité, c'est plus subtil que ça.
Et donc, c'est un continent réservé à la paix et à la science. Hein. C'est le principe de ce traité sur l'Antarctique qui sera complété par le protocole de Madrid relatif à la protection de l'environnement qui est entré en vigueur en 1998. Alors, ce protocole consacre l'Antarctique comme une réserve naturelle, donc interdiction d'exploitation des ressources minérales à des fins autres que scientifiques. Du coup, tous les signataires du traité peuvent installer en Antarctique des bases de recherche scientifique, et il y en a de plus en plus.
Oui, ça s'est tout à fait permis donc par le traité de 1959. Et puis, en effet, au-delà des bases scientifiques qui augmentent, je n'ai pas envie de dire exponentiellement, mais qui font l'objet, en tout cas, d'intérêts de plus en plus croissants, eh bien, vous avez aussi des entreprises qui commencent à développer des activités commerciales dans le secteur notamment du tourisme, mais pas seulement, et qui arrivent à rentrer sur le continent. Donc, si on parle des bases scientifiques, pour vous donner pêle-mêle l'étendue de la situation, on va retrouver des pays qui sont actuellement soit en train de construire de nouvelles bases, soit de rénover des bases anciennes, soit d'étendre, et parfois massivement, leurs bases existantes. Vous avez pêle-mêle la Corée du Sud, vous avez l'Ukraine, le Brésil, la Russie, la Colombie, la Chine, le Chili, la Suède, la Turquie, l'Italie, l'Australie, le Pérou, le Royaume-Uni et enfin les États-Unis. Ça fait beaucoup. Et au-delà des bases scientifiques, dans cette petite liste-là, il y a des pays, comme par exemple l'Italie ou la Suède, qui ne créent pas de nouvelles bases scientifiques, mais qui sont en train d'acquérir de nouvelles capacités d'accès à l'Antarctique. Par exemple, des nouveaux brise-glaces, tout simplement. Et c'est en train de changer la géopolitique de la zone.
Alors Jérôme Chaplaz, aujourd'hui il y a 53 pays qui font partie de ce traité sur l'Antarctique. On le disait tout à l'heure, la réunion annuelle du traité de l'Antarctique va avoir lieu à Prague au mois de juillet. Et là il y a des choses qui se discutent, par exemple justement les candidatures des nouveaux entrants, j'imagine la gestion de ces envies d'expansion de base dont parlait Mika Meren.
Tout à fait, en fait la réunion se découpe en deux parties, la partie qui est la réunion des délégations des pays en question sur le traité, et ce qu'on appelle le comité de protection de l'environnement qui examine en fait la validité des projets en termes d'impact ou non. Donc je vais vous citer un exemple. Les Chinois envisagent de construire une nouvelle station de recherche dans le secteur de la mer de Ross, donc on va dire en face de la Nouvelle-Zélande, et en fait ils doivent produire un document extrêmement complet décrivant l'ensemble de l'activité, ce qu'ils envisagent de faire, comment le lieu est trouvé, comment le lieu va être laissé en quelque sorte. Ils doivent démontrer monter la base, quel va être l'impact sur les populations de manchots en local ou d'autres oiseaux maritimes, comment ils vont traiter les questions d'énergie, comment ils vont traiter les questions de déchets. Et en fait, tout ça, c'est un processus itératif. Ils le présentent, c'est critiqué par les autres nations, ils doivent revoir leur copie, et in fine, l'acceptation, finalement, c'est par consensus, il faut que l'ensemble des nations se mettent d'accord. Donc il y a quand même une espèce de procédé qui fait que même les chercheurs sont très contrôlés. Nous-mêmes, à l'Institut Polaire, l'ensemble des programmes de recherche que l'on conduit en Antarctique doivent faire l'objet d'une déclaration d'activité qui est évaluée par l'autorité compétente en France. L'autorité compétente, ce sont les terres australes et antarctiques françaises, qui donne le feu vert ou non. Et toutes les activités touristiques, une compagnie de croisière française qui veut transporter des touristes en péninsule antarctique, par exemple, doit décrire son activité, la présenter aux terres australes, qui donne ou non l'autorisation.
Et là aussi, Mika Meren, le tourisme se développe beaucoup dans la zone.
Alors oui, le tourisme se développe dans la zone. On a déjà les chiffres d'ailleurs de la saison 2018-2019 qui vient de s'écouler. Alors il est clair qu'on est sur une pente encore une fois ascendante et même encore plus ascendante que l'année précédente puisque on a vu que sur l'année 2017-2018 par rapport à 2016-2017, on avait eu une progression, c'est une année exceptionnelle en matière de progression. On a vu quasiment 17% de progression du nombre de touristes qui étaient transportés donc en Antarctique. Sur l'année 2018-2019, si on compare à l'année 2017-2018, on a 56 168 touristes, très exactement, qui sont venus sur le continent. C'est une augmentation de 8,63% par rapport à l'hiver précédent, l'été austral précédent. Donc on voit qu'il y a une progression, que cette progression, elle continue. Alors évidemment, ça fluctue d'une année sur l'autre, mais on voit que donc cette progression, elle se maintient. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter deux autres éléments sur la question du tourisme. La première, c'est le fait que 98% des touristes sur cette saison 2018-2019 venaient par la mer et depuis l'Amérique du Sud, ce qui est un élément, encore une fois, là, géopolitique et géoéconomique absolument structurant. Et le troisième point, c'est le point que vous avez donc une association des tours opérateurs antarctiques, l'IATO, qui participe d'ailleurs aux réunions que Jérôme Chaplace vient de mentionner. Et l'IATO vient d'achever son assemblée générale et les tours opérateurs ont décidé de prendre de nouvelles mesures pour essayer de faire en sorte que cette augmentation du tourisme ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Alors je sais que beaucoup diront que c'est pas assez et ils ont certainement raison, mais toujours est-il que ces nouvelles mesures, donc petit à petit, dans ce processus itératif, sont en train d'émerger. Donc pour vous les donner encore une fois pêle-mêle, vous avez des mesures obligatoires sur la question de l'évitement des collisions entre navires et baleines. Vous avez des restrictions supplémentaires qui ont été prises sur l'usage des drones, et des drones notamment pour des photos, des vidéos que les touristes prennent avec eux. Vous avez un durcissement des consignes qui sont données aux touristes, et notamment ceux qui mettent le pied sur le continent. Et puis ensuite, vous avez le développement, en tout cas des promesses de développement, de programmes conjoints Arctique-Antarctique, par exemple, sur l'éducation des touristes, sur la question des déchets ou des plastiques, ou encore des programmes de recherche qui vont émerger, par exemple sur la santé des manchots, sur les sites de débarquement de touristes.
Mais si tout cela pouvait être étendu à l'ensemble du monde, je pense que le tourisme changerait de face. Alors, autre enjeu très important en Antarctique, le sous-sol. Hein, Jérôme Chaplace, c'est important, le sous-sol de l'Antarctique, y compris offshore, parce qu'il regorge potentiellement de charbon, de pétrole, de gaz naturel formé avant la dérive des continents. Et là, il y a de grosses velléités d'exploitation commerciale qui ont déjà été manifestées. Comment ça se passe? Vous en parlez lors de la réunion annuelle du traité de l'Antarctique de cela?
Alors, de la même façon, cette activité est complètement contrôlée puisque de facto, le protocole de Madrid interdit toute activité minière d'exploitation
pour l'instant,
mais tant que le protocole est en vigueur. Et pour remettre en question le protocole, Michel Rocard, qui en est quand même à l'origine avec le Premier ministre Bob Hawke d'Australie, a mis des garde-fous dans le sens la France a un droit de veto, hein, il faut des consensus pour arriver à bouger les lignes. Donc là-dessus, j'aurais tendance à dire que, ne serait-ce que naturellement par le fait que il est toujours possible d'obtenir des ressources minérales ou pétrolières dans d'autres lieux de la planète de manière beaucoup plus simple, beaucoup moins risquée, beaucoup moins coûteuse. N'oublions pas que n'importe quelle installation en Antarctique requérait des aspects d'assurance. Les compagnies d'assurance sont pas folles, elles vont pas prendre des risques inconsidérés. Donc tant que c'est plus rentable de le faire ailleurs, je pense qu'on a une protection quelque part naturelle du risque. On peut s'amuser, on va dire, à se faire peur autour de ça, mais je pense que aujourd'hui l'enjeu il est beaucoup plus autour du tourisme, où c'est une réalité, comme Mika Mered l'a indiqué, c'est une réalité, c'est en train d'augmenter de manière très forte. La France fait partie des pays qui proposent pour la prochaine réunion du comité de protection de l'environnement antarctique la mise en place d'observateurs à bord de certains navires, de manière à voir sur zone comment ça se passe, de la même façon qu'on met des observateurs sur les navires de pêche pour s'assurer que les quotas sont respectés.
Mika Mered, vous partagez cet avis ?
Alors, je partage tout à fait cet avis sur la question du continent antarctique. Mais j'ai tendance à voir les questions antarctiques de manière un tout petit peu plus large, parce que il y a malheureusement ou heureusement, ça c'est en fonction des convictions politiques de chacun, des exploitations pétrolières offshore qui commencent à avoir lieu non loin de l'Antarctique. Et par non loin de l'Antarctique, j'entends la Terre de Feu, donc c'est-à-dire la région la plus au sud du continent sud-américain, la plus au sud de l'Argentine. Et donc en Terre de Feu, vous avez donc des explorations et aussi de l'exploitation offshore pétrole-gaz qui a émergé et qui émergeait depuis les années 90. Et quand on parle de la Terre de Feu, évidemment on ne parle pas d'Antarctique, mais on parle d'une région qui est à moins de 1000 km de l'Antarctique. On est dans une région qui est de surcroît en fait le point de logistique principal pour les activités touristiques, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi pour beaucoup d'activités scientifiques, puisque c'est quand même sur la péninsule antarctique, c'est-à-dire ce territoire antarctique qui est en face de la Terre de Feu, que vous avez la majorité des activités scientifiques qui ont lieu en Antarctique. Donc, très, très simplement, en avril dernier, en avril 2019, l'Argentine a décidé de lancer un nouveau programme de licence d'exploration. C'est les premières licences d'exploration qui sont données par l'Argentine en offshore depuis plus de 20 ans, et ils ont donné 38, c'est un nombre assez important, et dans le même temps, ils ont aussi réinstauré des exemptions fiscales autour des taxes à l'importation sur des matériaux ou des taxes sur la valeur ajoutée pour attirer les entreprises du secteur dans la zone.
Et donc vous dites attention, méfiance, quoi.
Surtout que les gagnants, on les connaît, et que les gagnants, ils sont déjà très présents, par exemple, en Arctique. C'est-à-dire, on retrouve Equinor, on retrouve ExxonMobil, on retrouve Wintershall. Total était déjà présent dans la région dès les années 90 avec sa filiale Total Austral. Mmh. Et elle est toujours présente aujourd'hui avec son champ de Vega Pléiade et son futur champ de Phoenix, 10 millions de mètres cubes chacun. Et puis, il y a Qatar Petroleum aussi, qui est un nouveau venu dans la région à l'occasion de cette ouverture de nouvelles licences. Donc, tout ça, c'est pas l'Antarctique directement, mais c'est le sub-Antarctique, c'est le très proche Antarctique.
Donc attention, vigilance. Merci beaucoup Mika Mered pour ce point géostratégique. On va faire une petite pause musicale et après j'espère que nous pourrons aller à Concordia.
We'll be right back. goodness.
C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des conditions de vie en Antarctique pendant l'hiver à la station Concordia, la station scientifique la plus isolée du monde, située à 3200 mètres d'altitude dans des conditions extrêmes puisque les températures, nous l'avons dit, peuvent atteindre moins 70 degrés. La station est plongée dans la nuit australe pendant 6 mois, de mars à septembre, et c'est même un peu plus, hein, Jérôme Chaplaz.
Non, la nuit noire effectivement s'arrête au mois d'août. Après, le soleil commence à pointer un petit peu en dessous de l'horizon pour créer une espèce de pénombre. Et puis, il finit par passer au-dessus de l'horizon, effectivement, courant septembre.
Donc, c'est vraiment 6 mois de nuit. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 juin. C'est un jour spécial pour les hivernants, puisque c'est le milieu de cet hiver interminable. Un hiver ponctué par le rythme des recherches scientifiques. Nous allons en parler. Et ça y est, la ligne est rétablie, justement, avec la base Concordia, direction donc l'Antarctique, à 16 000 km plus au sud, puisque nous avons la chance d'être en ligne avec Julien Moyet. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 23 ans, vous êtes glaciologue chimiste pour l'Institut des géosciences de l'environnement. Alors, vous êtes un peu nos yeux, même si vous êtes dans la nuit par moins 70 degrés. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre environnement ?
Oui, alors ici on, comme vous l'avez dit, on est sur un plateau situé à plus de 3200 mètres d'altitude. Donc là, on ne voit pas grand-chose, en effet, vu qu'il fait nuit, mais il faut s'imaginer que pendant que le soleil est là, c'est tout plat, tout blanc sur des milliers de kilomètres, c'est-à-dire qu'on voit à 360 degrés un horizon blanc.
Voilà, et alors vous, vous vivez là depuis la mi-novembre. Comment est-ce que vous vous sentez après plusieurs mois de vie quotidienne dans ce contexte qu'on peut qualifier quand même d'hostile, hein, avec des températures extrêmement froides et un soleil absent pendant 3 mois ?
Ouais, c'est ça, ouais. On peut dire que c'est un environnement hostile, mais ici dans la base, on est quand même assez bien lotis. Et donc non, tout se passe très bien, les conditions climatiques, on s'y habitue et les équipements sont vraiment très bien, très chauds, donc on n'a pas si froid que ça.
Bon, nous voilà rassurés parce que vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission, mais Claire Le Calvez, que vous connaissez, qui s'occupe de la logistique de la base, nous disait que quand même il y avait des risques d'avoir des coupures d'électricité, des choses comme ça, et que parfois il pouvait y avoir des tensions pour certains hivernants. Non, visiblement, vous, ça va bien.
Pour le moment, ouais, pas de soucis particuliers. On en a eu une de coupure d'énergie en effet, mais l'équipe technique a tout de suite rectifié le pas, donc pas de gros problèmes.
Alors que représente pour vous ce Midwinter Day, ce jour de milieu de l'hiver? Ce soir, vous faites la fête?
Ouais, exactement. Voilà, c'est un jour assez particulier pour toutes les bases qui se situent en Antarctique. Ça marque le milieu de l'hiver. On sait qu'à partir de maintenant, même si on verra pas le soleil tout de suite, les jours vont commencer à grandir. Donc ouais, c'est une belle étape dans cet hivernage.
Alors vous êtes avec une douzaine d'autres personnes, nous disait Claire Le Calvez, des scientifiques, des techniciens. Quelles sont les recherches en cours autour de vous?
Alors il y a beaucoup de thèmes de recherche ici. Il y a des recherches qui sont basées sur l'univers, l'environnement. Il y a des recherches d'astronomie, il y a des recherches de sismologie, géomagnétisme. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à la Terre. Après, il y a des recherches aussi, il y a un médecin ici qui fait partie de l'Agence spatiale européenne et donc qui fait des études sur l'adaptation humaine dans ces conditions pendant un long moment.
Donc vous êtes un peu un cobaye.
Tous les mois, on a des prises de sang.
Ouais.
Exactement, c'est un petit peu ça, ouais.
Donc tous les mois, vous avez des prises de sang, pardon, je vous ai coupé, et...
Ouais, voilà, on a des prises de sang, on fait aussi des analyses sur la densité de nos os, etc., pour voir un peu comment le corps humain évolue dans ces conditions d'altitude, de manque d'oxygène et de long isolement.
Ben, au moins, vous êtes scruté de près. Alors vous-même, vous travaillez comme glaciologue chimiste pour l'Institut des géosciences de l'environnement. Sur quoi en particulier ?
Alors moi, je m'occupe de plusieurs programmes, enfin je participe ici à plusieurs programmes, mais donc principalement, c'est je réalise des prélèvements de neige qui vont ensuite servir à faire des analyses chimiques pour un peu comprendre les cycles chimiques qui ont lieu ici sur les hauts plateaux antarctiques. Et puis après, il y a des mesures météorologiques et également, je m'occupe de nettoyer des instruments pour qu'ils puissent mesurer en continu, sur toute l'année, les conditions météorologiques ici, à Concordia.
Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Quand rentrez-vous en France ?
La fin de mission est prévue pour novembre. Après, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être rester un peu dans l'hémisphère sud voyager et puis rentrer en France quelques mois plus tard.
Ça vous semble loin, le mois de novembre ?
Oui et non. Ça passe quand même assez vite. Ici, le temps passe assez vite, donc... Mais on en profite et puis on a aussi hâte de rentrer.
Oui, c'est un mélange. Merci beaucoup Julien Moyer pour votre témoignage.
Exactement.
Donc en direct de la base Concordia à 3200 mètres d'altitude sur le continent antarctique. Bonne suite à vous. Claire Le Calvez, vous êtes rassurée, vos équipes vont bien sur place.
Oui, je suis rassurée. Après, j'ai des contacts quotidiens par mail et puis par WhatsApp, parce que WhatsApp fonctionne depuis l'Antarctique. Et puis, je fais aussi des Skype, des Skype tous les mois avec l'équipe technique et puis les Français qui sont sur place. Les Français et la médecin-chercheur ESA, qui n'est pas française ni italienne, hein, qui est danoise cette année.
Et il y a beaucoup, vous le disiez, ils sont 13 cette année. Est-ce que de toute façon, c'est la capacité maximum ?
Non, alors la capacité maximale en hiver, c'est 18, parce qu'il y a 18 chambres. Et l'effectif maximal qu'on a eu, c'était 16 jusqu'à présent. Et là, depuis quelques années, c'est 13. En fait, l'équipe technique et d'intendance, parce que si dedans on met la personne responsable de la radio, le cuisinier et puis le docteur, est constante, s'ils sont 7. Et ensuite, c'est le nombre de scientifiques qui va varier en fonction des programmes qui ont lieu sur le site. Parce qu'il y a des observatoires qui sont sur le long terme et sinon il y a des programmes qui vont durer 2, 3, 4 ans, ça dépend. Et en fonction de ces programmes-là, en fait, les scientifiques présents en hivernage, leur nombre peut changer.
Alors Jérôme Chaplace, justement, à Concordia, il y a des équipes européennes qui espèrent mettre au jour à partir de 2020 les glaces les plus anciennes du monde. C'est un programme qui vous tient à cœur parce qu'en dehors d'être directeur de l'Institut Polaire, vous travaillez depuis longtemps sur ces fameux carottes glaciaires qui permettent de lire l'histoire de notre climat grâce aux petites bulles de gaz qu'elles renferment. Alors quel est ce projet ?
C'est un grand défi que s'est fixé cette communauté de scientifiques internationales travaillant sur l'évolution du climat, de la composition de l'atmosphère, des enveloppes, comme on dit, superficielles de la planète. C'est remonté à 1,5 million d'années grâce à une carotte de gaz forée dans le glacier antarctique pour remonter à la surface des couches de gaz qui se sont formées donc il y a 1,5 million d'années. C'est deux fois plus que ce qu'on a obtenu jusqu'ici. Le record, c'est 800 000 ans qui ont été obtenus justement à la station Concordia. La station Concordia, en fait, a été construite à côté du site de forage. Et en fait, le site même, du Dôme C, où a été positionné Concordia, a été sélectionné pour ces raisons-là, du fait qu'on trouve de la glace très ancienne en profondeur. Alors pourquoi 1,5 million d'années ? C'est pas pour battre un record. C'est parce qu'en fait, la planète a connu, il y a environ 1 million d'années, un changement majeur dans son rythme cardiaque, quelque part. Son rythme cardiaque climatique. Quand on regarde sur les derniers millions d'années l'évolution naturelle du climat de la planète, il est caractérisé par des successions de périodes froides et de périodes chaudes. Et cette succession, elle se produit environ tous les 100 000 ans. tous les 100 000 ans, on va rencontrer une période chaude. Aujourd'hui, on est dans une période chaude. Si on se projette au-delà de 1 million d'années, cette succession, cette espèce de rythme naturel du climat terrestre se produisait tous les 40 000 ans. Et on sait que ce qui contrôle, on va dire, cette espèce de rythmicité au premier ordre, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui est influencée par les planètes géantes, en fait, par Saturne et par Jupiter, qui, par leur champ de gravité, déforment cette orbite de la Terre. Et ça, on peut le calculer, hein, c'est ce qu'on appelle de la mécanique céleste, et on peut donc calculer cette déformation de l'orbite de la Terre. Et en fait, autour de 1 million d'années, il n'y a rien de particulier qui s'est passé. L'orbite continue à se déformer, mais il n'y a pas eu une augmentation d'une fréquence ou quoi que ce soit. Donc quelque chose s'est passé de manière interne au système climatique, au fonctionnement de la machine climatique terrestre, qui, répondant à cette espèce de pacemaker de l'orbite de la Terre autour du Soleil, a répondu de manière différente. Et on suspecte très fortement que c'est lié à la quantité de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, et notamment au gaz carbonique. Et la seule façon qu'on a de contrôler cela, c'est d'aller obtenir cette matière première, cette glace formée à l'époque, et de regarder dans ces toutes petites bulles d'air formées quand la glace s'est transformée il y a 1,5 million d'années, la quantité de gaz carbonique présente. Et c'est pas pour une, j'irais que c'est pas un plaisir de chercheur pour répondre à une question un petit peu qui peut paraître saugrenue à nos auditeurs. On va chercher là-bas ce qu'on appelle la sensibilité climatique, c'est-à-dire la réponse du système climatique terrestre, cette machine climatique, à une évolution des gaz à effet de serre. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir, à l'horizon de la fin du XXIe siècle et au-delà, et puis même avant, quelle va être la trajectoire climatique de la planète en fonction de la quantité de gaz à effet de serre qu'on met dans le système. Donc les discussions qu'on a eues avec la COP21 à Paris, c'est autour de ça. Qu'est-ce qu'on s'autorise à mettre dans l'atmosphère pour avoir un climat stabilisé à 1,5 degré de plus qu'il y a 200 ans? Combien pour 2 degrés? Combien pour 3 degrés? C'est ça qui est discuté fondamentalement. Et ce qu'on va chercher dans ces glaces très anciennes, au fond du glacier antarctique, c'est une réponse partielle à cette question. Comment le système climatique terrestre répond à une évolution de la quantité de gaz à effet de serre qu'il a présent dans son atmosphère.
Alors c'est pourquoi? Parce que c'est une véritable prouesse technologique, il faut forer à 1800 mètres.
Là, on va chercher de la glace à 2800 mètres de profondeur. Voilà, en fait, on va chercher un endroit qui n'est pas très profond pour nous.
Ah bon? Moi, ça m'impressionne beaucoup.
Le forage à Concordia, il a atteint 3270 mètres de profondeur, il était encore plus profond. Mais la difficulté, c'est qu'à cette profondeur-là, la glace la plus profonde a fondu au contact du socle rocheux. Tout simplement parce que la glace de l'Antarctique, c'est comme la glace dans votre réfrigérateur ou congélateur. Quand elle s'accumule, au bout d'un moment, ça ne refroidit plus. Et bien là, c'est l'inverse. En fait, la chaleur qui provient de la croûte terrestre, qui provient du socle rocheux, ne peut pas s'évacuer vers l'atmosphère parce qu'il y a de la glace dessus. Plus il y a de la glace, moins ça s'évacue. Et donc, la chaleur, elle finit par faire fondre la glace. Donc, on va chercher 2800 mètres parce que là, ça ne fond pas. Et on a quand même de la glace suffisamment ancienne. Et on a un lieu qui est situé à environ 40 km de Concordia, sur lequel, pendant les derniers 2 ans, on a conduit avec nos collègues italiens des campagnes de reconnaissance, avec du radar notamment, pour trouver les couches internes du glacier et voir jusqu'à quel âge on peut remonter. Et on a de bonnes chances d'avoir de la glace de 1,5 million d'années.
Dans combien de temps?
Alors, l'opération débute cette saison, donc la prochaine campagne d'été, donc, qui débute en novembre de cette année, qui va se terminer en février. On va installer le camp de forage. L'année suivante, 2020-2021, on va commencer le forage jusqu'à environ 120 mètres de profondeur. Ensuite, 2021-22, 2022-2023, 2023-2024, on fore jusqu'à 2800 mètres de profondeur, on espère bien. Et puis 2024-2025, on essaye de répliquer la partie la plus profonde du forage qui contient la glace la plus ancienne pour avoir suffisamment de matière première pour toute la science qu'on veut faire sur un tout petit cylindre de 10 cm de diamètre qui contient cette glace si précieuse.
Et bien voilà qui fait rêver. Ce sera donc la fin de cette émission. Merci à tous d'être passés dans ces pas du vent. Merci aux équipes techniques de France Bleu qui nous ont permis d'être avec Claire Le Calvez en direct de Quimper. Merci à Mika Meret qui était donc par téléphone avec nous depuis Pékin et à Julien Moyer qui était au téléphone avec nous depuis Concordia dans l'Antarctique. On a défié quand même les règles de la technique dans cette émission et merci à vous Jérôme Chaplace, vous étiez au moins physiquement là avec moi dans ce studio. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.